comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, 30 septembre. Ce chef de gare me remit un mot d'introduction auprès de son collègue de King's Cross, de sorte que, en arrivant à Londres ce matin, je pus immédiatement lui demander ce qu'il savait sur l'arrivée des fameuses caisses. À son tour, il fit venir les employés qui s'en étaient occupés, et ceux-ci me dirent que leur nombre se montait à 50. Ici, aucune soif extraordinaire ne s'était manifestée. Cependant, qu'elle fût extraordinaire ou non, à nouveau, je me sentis obligé de désaltérer ces braves gens. De King's Cross, je gagnai le bureau de Carter, Patterson et compagnie, où l'on me reçut très courtoisement. Après avoir recherché le dossier relatif aux transactions, les employés à qui je m'étais adressé téléphonèrent à la succursale de King's Cross afin d'obtenir des renseignements précis. Les camionneurs qui avaient transporté les caisses venaient de rentrer et on nous mit tout de suite en rapport. On avait confié à l'un d'eux la lettre de voiture et les autres documents concernant le transport des caisses jusqu'à Carfax. Ici aussi, leur nombre correspondait à celui indiqué sur la facture. De plus, les camionneurs se déclarèrent à même de me fournir quelques détails supplémentaires. Mais ces détails, je m'en aperçus bientôt, concernaient seulement le grand inconvénient de ce travail, la poussière, et la soif qu'il engendra. Lorsque j'offris à ces hommes l'occasion de soulager, un peu plus tard et au moyen d'espèces sonnantes et de coupures qui circulent dans le royaume, ce mal salutaire, l'un d'eux s'écria « Cette maison, patron, il n'y a pas que de la poussière. C'est la plus bizarre que j'ai jamais vue. Parole. On dirait qu'on n'y est pas entré depuis 100 ans. Mais la couche de poussière, épaisse comme ça, que nous aurions même pu nous coucher dessus et dormir sans nous faire mal aux os. Et tombe en, comme on dit, en ruine, la maison, qu'on s'y sentirait bien, la vieille Jérusalem. Mais surtout, la vieille chapelle. Ça, ça dépasse tout. Moi et mes camarades, on croyait qu'on n'en sortirait pas vivants. Seigneur, je n'aurais pas voulu rester là un instant de plus à la tombée de la nuit. » Je le croyais volontiers. Et s'il avait su tout ce que je savais, je crois qu'il aurait employé un langage plus expressif encore. En tout cas, je suis maintenant certain d'une chose. Toutes les caisses arrivées de Varna à Whitby, à bord du Déméter, furent bien amenées dans la vieille chapelle de Carfax. Il doit y en avoir 50, à moins que, depuis lors, on soit venu en reprendre quelques-unes, ce que je crains, après avoir lu le journal du docteur Seward. Je vais essayer de retrouver le camionneur qui emportait les caisses de Carfax quand Renfield l'a attaqué. En suivant cette piste, peut-être apprendrons-nous encore pas mal de choses. Plus tard. Nous avons, Mina et moi, travaillé toute la journée, et tous les papiers sont maintenant en ordre. Journal de Mina Harker, 30 septembre. Je me sens si heureuse que je peux à peine contenir ma joie. C'est sans doute la réaction normale à l'extrême angoisse qui ne me quittait plus. Je craignais que toute cette affaire, en rouvrant sa blessure, ne fasse grand mal à Jonathan. Quand il est parti pour Whitby, il paraissait réellement maître de soi, mais pour ma part, j'étais morte de peur. Dieu merci, ses démarches et les efforts que, malgré tout, elles ont exigés de lui, l'ont au contraire aidé à se maintenir dans ses excellentes dispositions. Jamais il n'a été aussi fort, aussi plein d'énergie, aussi résolu à aller jusqu'au bout de cette affaire. Le si bon et si cher professeur Van Helsing avait raison. Jonathan est profondément courageux, et plus les difficultés offrent d'obstacles, plus il les affronte hardiment, alors qu'elles laisseraient sans ressort une nature plus faible. Il est donc revenu plein d'espoir et de détermination, et nous avons mis en ordre tous les documents. Ils sont prêts. Et je me sens également fort excitée. Je me demande s'il ne faut pas, après tout, avoir aussi pitié d'une créature traquée comme l'est maintenant le comte. car cette créature n'a rien d'humain et ne ressemble même pas à une bête. Mais d'autre part, quand on lit ce que raconte le docteur Seward de la mort de Lucy et des événements qui suivirent, il était impossible d'éprouver pour Dracula la moindre pitié. Plus tard. Lord Godalming et M. Morris sont arrivés plus tôt que nous ne les attendions. Comme le docteur Seward était allé voir des malades et avait emmené Jonathan avec lui, c'est moi qui les accueillis. Cela me fut, je l'avoue, très pénible. Je me souvenais des espoirs de la pauvre Lucie, quelques mois seulement auparavant. Naturellement, elle leur avait parlé de moi, et il me sembla que le docteur Van Helsing, lui aussi, avait fait de moi un fameux éloge, pour reprendre l'expression de M. Morris lui-même. Les pauvres, ils ignorent que je sais qu'ils avaient l'un et l'autre demandé Lucie en mariage. Et comme ils croient que je ne sais rien non plus des affreuses circonstances de sa mort, ils n'ont pour ainsi dire parlé que de la pluie et du beau temps. Finalement, je pensais bien faire en les mettant au courant de la situation actuelle. Sachant, d'après le journal du docteur Seward, qu'ils avaient assisté à la mort de Lucie, je veux dire sa mort véritable, je ne devais pas craindre de trahir prématurément un secret. Je leur expliquais que mon mari et moi, nous avions lu tous les documents, les avions transcrits à la machine et rassemblés. Et je leur en donnais à chacun une copie, afin qu'ils aillent la lire dans la bibliothèque. Lord Godalming me demanda « Et c'est vous, Madame Harker, qui avez tapé tous ces feuillets à la machine ?» Je répondis par un signe de tête affirmatif, et il continua. « Je ne vois pas très bien quel est votre but, mais vous avez été tous si bons, si dévoués pour moi. Le zèle dont vous avez témoigné depuis le début semble porter tant de fruits que tout ce que je puis faire, c'est avoir confiance et essayer de vous aider. J'ai déjà dû admettre certains faits, je le reconnais. D'autre part, je sais que vous aimiez ma pauvre Lucie. » Il se détourna et se cacha le visage dans les mains. J'entendais des sanglots dans sa voix. Dans un mouvement de chaude sympathie, M. Morris lui posa un moment la main sur l'épaule, puis sortit sur la pointe des pieds. Sans doute y a-t-il dans notre nature à nous, les femmes, quelque chose qui incite les hommes à s'abandonner devant nous, à leurs émotions, à leurs douleurs, sans pour cela craindre de perdre de leur dignité. Car lorsque Lord Godalming se trouva seul avec moi, il se laissa tomber sur le sofa et ne chercha plus à cacher son chagrin. Je vins m'asseoir près de lui et lui pris la main. J'espère qu'il n'a pas jugé cela trop familier de ma part et qu'il ne pensera jamais de la sorte si, plus tard, il se souvient de mon geste. Mais je suis injuste envers lui. Je sais qu'il est un vrai gentleman et qu'une telle pensée ne lui viendra jamais à l'esprit. J'aimais beaucoup Lucie, lui dis-je. Et je sais ce qu'elle était pour vous, ce que vous étiez pour elle. Et nous étions, elle et moi, comme deux sœurs. Maintenant qu'elle n'est plus là, ne voulez-vous pas, à votre tour, me considérer comme une sœur? Je sais que deux grands malheurs viennent de vous atteindre. Si ma sympathie profonde peut soulager si peu que ce soit votre chagrin, laissez-moi vous aider. Le pauvre garçon, alors, eut une véritable crise de larmes. J'éprouvais pour lui une pitié infinie, et sans réfléchir à ce que je faisais, j'ouvris les bras. En sanglotant, il appuya la tête contre mon épaule. Secoué par l'émotion, il pleura longtemps, comme un enfant. Chez toutes les femmes aussi, l'instinct maternel s'éveille dès que l'on fait appel à leur protection. Je sentais cet homme qui sanglotait sur mon épaule, et j'avais l'impression que c'était le bébé que je porterais peut-être un jour, et je caressais ses cheveux comme j'aurais caressé les cheveux de mon propre enfant. Au moment même, je ne compris pas combien tout cela était étrange. Enfin, ses sanglots se calmèrent et il releva doucement la tête en s'excusant, encore qu'il ne fit rien pour cacher son découragement, son désespoir. Il m'avoua que depuis des jours et des jours, il n'avait pu adresser la parole à personne, alors que dans son deuil même, un homme doit s'entretenir avec ses semblables. La société d'aucune femme ne lui faisait de bien. Et d'autre part, il lui était impossible d'avoir avec aucune d'elles une conversation amicale, à cause des circonstances terribles qui avaient aggravé sa douleur. « Je sais à quel point j'ai souffert, » dit-il en s'essuyant les yeux, « mais le bien que vous m'avez fait aujourd'hui est si grand que, je le crains, je ne puis pas encore l'apprécier à sa valeur, et personne ne le comprendra jamais assez. Pour moi, je le sens, un jour viendra où je le comprendrai pleinement. » Et ma reconnaissance envers vous, croyez-le, sera d'autant plus profonde. Désormais, vous me permettrez d'être un frère pour vous, n'est-ce pas, en mémoire de Lucie? « En mémoire de Lucie », répétai-je comme nous nous serrions les mains. « Et aussi à cause de ce que vous êtes vous-même », ajouta-t-il. « Car si quelqu'un a jamais mérité de gagner la gratitude et l'estime d'un homme, vous venez de gagner les miennes. Si, à l'avenir, vous avez jamais besoin de l'aide d'un ami dévoué, ce ne sera pas en vain que vous ferez appel à moi. Dieu veuille que vous ne connaissiez jamais de jours sombres. Mais si cela devait arriver, promettez-moi que vous me le feriez savoir. » Il parlait avec sérieux, et le cœur déchiré comme au premier jour, et je sentis que le mot qu'il attendait de moi le réconforterait. « Je vous le promets, » dis-je. Dans le corridor, j'aperçus M. Maurice devant une des fenêtres. Quand il entendit mes pas, il se retourna et me demanda aussitôt « Comment va Arthur ?» Remarquant alors que j'avais les yeux rouges, « Ah, je vois que vous l'avez réconforté, le pauvre garçon, il en avait bien besoin. Il n'y a qu'une femme pour adoucir le chagrin d'un homme, et la tendresse féminine lui était... » Lui-même supportait sa peine avec tant de courage que j'en souffris plus que je ne pourrais le dire. Je vis la liasse de feuillets dans sa main, et je me rappelais que lorsqu'il les aurait lus, il saurait que j'étais au courant de tout. Alors je lui dis, « Je voudrais tant réconforter tous ceux qui ont de la peine. Permettez-moi d'être pour vous une amie que vous viendrez trouver quand vous aurez besoin de soutien. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous parle ainsi. » Il s'inclina et me baisa la main. Mais au fond, je me sentais si faible, moi qui voulais soutenir cet homme généreux et désintéressé. Je ne savais comment lui témoigner mon admiration, et dans un soudain élan d'enthousiasme, je l'embrassai. Les larmes lui vinrent aux yeux, et l'espace d'un moment, l'émotion l'empêcha de parler. Pourtant, il se ressaisit et me dit « Petite fille, vous ne regretterez jamais de vous être montrée si bonne pour moi, jamais, aussi longtemps que vous vivrez. » Puis il alla dans le bureau retrouver son ami. Petite fille, les paroles mêmes qu'il avait dites un jour à Lucie, mais lui-même, quel ami il avait été. Chapitre 18. Journal du docteur Seward. Quand je rentrais à 5 heures, non seulement Godalming et Maurice étaient arrivés, mais déjà ils avaient pris connaissance des divers journaux et lettres que Harker et son étonnante femme avaient recopiés et classés. Harker, lui, n'était pas encore revenu. Il était allé chez les camionneurs dont le docteur Hensey m'avait parlé dans sa lettre. Madame Harker nous offrit une tasse de thé, et j'ai pu bien dire que, pour la première fois depuis que je suis attachée comme médecin à cette maison, j'ai eu vraiment l'impression d'être chez moi. Lorsque nous eûmes pris le thé, Madame Harker s'adressa à moi. « Docteur Seward, puis-je vous demander une faveur ? Je voudrais voir ce malade, Monsieur Renfield. Je vous en prie, laissez-moi aller le voir. Ce que vous dites de lui dans votre journal m'intéresse tellement. » Elle me regardait d'une façon si charmante, d'un air si suppliant aussi, qu'il m'était impossible de lui refuser cela. Du reste, je n'avais aucune raison de le faire. Je l'emmenai donc voir Renfield. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je dis à mon patient qu'une dame désirait le voir. À quoi il répondit, en se contentant de demander « Pourquoi ?»« Cette dame visite l'établissement, expliquai-je, et elle voudrait s'entretenir un moment avec tous les pensionnaires, l'un après l'autre. » « Très bien, alors, qu'elle entre. Mais attendez un instant, que je mette un peu d'ordre ici. » Pour lui, mettre de l'ordre dans la chambre, c'était avaler toutes les mouches et toutes les araignées que contenaient ces nombreuses boîtes, et cela avant que j'eusse pu l'en empêcher. De toute évidence, il craignait que quelqu'un d'autre s'occupât, de quelle façon, de ces bestioles. Une fois terminée sa tâche répugnante, il dit sur un ton joyeux « Introduisez cette dame !» Et il s'assit sur le bord de son lit, la tête penchée, mais les yeux levés, en sorte qu'il pût voir entrer la visiteuse. Un instant, je craignis qu'il eût quelque dessein homicide. Je me rappelais qu'il paraissait parfaitement calme dans mon bureau, le jour où, quelques minutes plus tard cependant, il avait voulu se jeter sur moi. Aussi eus-je soin de me tenir assez près de lui pour pouvoir le maîtriser tout de suite si jamais il tentait d'attaquer Madame Harker. Elle entra dans la chambre avec cette grâce, cette aisance qui, immanquablement, intimide les fous en forçant leur respect. Elle alla tout de suite à lui, souriante et la main tendue. « Bonsoir, Monsieur Renfield, lui dit-elle. Vous voyez que je vous connais. Le docteur Seward m'a parlé de vous. » Il ne lui répondit pas immédiatement. Les sourcils froncés, il la regardait attentivement. Puis, peu à peu, il laissa paraître l'étonnement, puis le doute. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre dire à Madame Harker « Vous n'êtes pas la jeune fille que le docteur voulait épouser, n'est-ce pas ? Non, ce ne peut être vous, car celle-là, elle est morte. » Madame Harker eut à nouveau un doux sourire tandis qu'elle lui répondait « Non, assurément, car moi j'ai un mari que j'ai épousé alors que je n'avais encore jamais vu le docteur Seward et que lui-même ne m'avait jamais vu non plus. Dans ce cas, que faites-vous ici ?» « Mon mari et moi sommes venus en visite chez le docteur Seward. Ne restez pas chez lui. »« Mais pourquoi ?» Pensant que ce genre de conversation pourrait déplaire à Madame Harker, encore plus qu'à moi-même, je jugeais bon d'intervenir. « Comment savez-vous que j'ai eu l'intention de me marier ?» demandai-je à Renfield. Il me répondit sur un ton de mépris, tandis que son regard allait de Madame Harker à moi pour se détourner aussitôt. « Quelle question stupide !»« Je ne suis pas du tout de cet avis, Monsieur Renfield. » dit Madame Harker, prenant immédiatement parti pour moi. Il eut pour lui répondre autant de courtoisie et de respect qu'il m'avait témoigné de mépris. « Vous comprendrez certainement, Madame Harker, que lorsqu'un homme est estimé, aimé comme l'est le docteur, tout ce qu'il concerne intéresse notre petite communauté. Non seulement ses amis aiment Monsieur Seward, mais même ses malades, parmi lesquels certains, à cause d'un équilibre mental des plus précaires, peuvent dénaturer les causes et les effets. Depuis que je suis moi-même dans cet asile d'aliénés, je ne puis m'empêcher de remarquer que la tendance au sophisme chez certains de ces pensionnaires les incline à commettre les erreurs de non causa et ignoratio elenchi, les incline à se tromper par ignorance de la manière sinon de la cause. » D'étonnement, j'ouvris les yeux tout grands. Voici que le malade dont je m'occupais le plus, celui qui caractérisait plus exactement qu'aucun des cas que j'avais jamais vus, l'affection dont il souffrait, se mettait à parler philosophie, et cela exactement comme l'eût fait un gentleman distingué. La présence de Madame Harker avait-elle fait vibrer quelques cordes de sa mémoire ? Si ce réveil inattendu de ses facultés mentales était spontané, ou du moins provenait de l'influence inconsciente de la jeune femme, celle-ci devait certes posséder un don, un pouvoir peu ordinaire. Nous bavardâmes pendant quelques moments encore. Madame Harker, voyant que Renfield paraissait jouir de sa raison, tenta, non sans me lancer en commençant un regard interrogateur, de le faire parler de son sujet préféré. Décidément, il m'étonnait de plus en plus. Il le fit avec l'impartialité d'un homme en pleine possession de ses facultés mentales. Bien plus, il se prit lui-même en exemple quand il en vint à traiter de certaines choses. « Eh bien, vous voyez en moi un être fort étrange. Il n'est pas surprenant, croyez-moi, que les miens se soient inquiétés et m'aient fait mettre sous surveillance. Je me figurais que la vie est une entité positive, perpétuelle, et qu'en engloutissant une multitude d'êtres vivants, même s'ils se trouvent tout au bas de l'échelle de la création, on peut prolonger indéfiniment la vie. Et il m'est arrivé d'y croire à tel point que, dans l'un de ces moments-là, j'ai réellement voulu supprimer un homme. Le docteur vous dira comme moi que j'ai essayé un jour de le tuer, dans l'intention d'augmenter mes forces vitales en m'assimilant sa vie par le moyen de son sang, me souvenant naturellement des paroles de l'Écriture, car le sang est la vie. Encore que, en vérité, le vendeur d'un certain remède ait vulgarisé ce truisme au point de le rendre digne de mépris. Pas vrai, docteur ? J'acquiesçai d'un signe de tête, trop stupéfait pour trouver à dire ou même à penser quoi que ce fût. Se pouvait-il que 5 minutes seulement auparavant, j'eusse vu cet homme manger ses mouches et ses araignées ? Je consultai ma montre. Il me fallait aller chercher Van Helsing à la gare. J'avertis donc Madame Harker qu'il était temps de nous retirer. Elle se leva aussitôt pour me suivre, mais auparavant, elle dit gaiement à M. Renfield « Au revoir, j'espère que je vous verrai souvent dans des circonstances plus favorables. » À quoi il répondit, pour mon étonnement final, « Au revoir, ma chère, ou plutôt, Dieu fasse que je ne revoie jamais plus votre charmant visage, qu'il vous bénisse et vous protège. » Je partis donc pour aller chercher Van Helsing à la gare, laissant chez moi le pauvre Hart, l'air un peu plus joyeux pourtant, qu'il ne l'avait eu depuis le début de la maladie de Lucy, et Quincy, ayant de son côté repris son entrain. Van Helsing sauta du wagon avec l'agilité d'un jeune homme. Tout de suite, il me vit, et se précipitant vers moi, il me dit « Ah, John, mon ami, comment allez-vous ? Bien ? Parfait. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'intention de rester ici un certain temps, si cela est nécessaire. Et j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Madame Mina est chez vous ? Oui. Et son admirable mari ? Et Arthur ? Et mon ami Quincy ? Ils sont tous chez vous, eux aussi. Parfait. » En chemin, je lui racontais tout ce qui s'était passé depuis son départ et comment mon propre journal, sur la suggestion de Madame Harker, avait servi maintenant à quelque chose. Ah, l'étonnante Madame Mina ! Elle a véritablement le cerveau d'un homme qui serait extraordinairement doué, mais un cœur de femme. Croyez-moi, Dieu avait une intention particulière quand il l'a façonnée. Mon cher John, jusqu'à présent la chance a voulu que cette femme nous aide. Seulement, passé cette soirée, elle ne devra plus être mêlée à cette horrible histoire. Elle court un trop grand risque. Nous, nous sommes décidés, n'est-ce pas ? Nous nous le sommes promis l'un à l'autre à détruire ce monstre. Mais ce n'est pas le rôle d'une femme. Même s'il ne lui arrivait effectivement aucun malheur, le cœur pourrait lui manquer devant tant et tant d'horreurs. Et elle pourrait continuer à en souffrir d'une façon ou de l'autre, qu'il s'agisse d'un trouble nerveux ou que ses nuits, désormais, soient peuplées d'horribles cauchemars. De plus, elle est jeune et mariée depuis peu. Elle aura peut-être bientôt, si ce n'est pas déjà maintenant, d'autres sujets de préoccupation. Vous me dites qu'elle a tout transcrit à la machine, donc elle va vraisemblablement nous entretenir de cette affaire. Mais dès demain, fini, elle ne s'en occupera plus. C'est sans elle que nous poursuivrons. Je l'approuvai entièrement et l'informai alors de ce dont nous nous étions aperçus pendant son absence. La maison achetée par Dracula était celle-là même qui se trouvait à côté du parc de notre établissement. Van Helsing montra un réel étonnement et parut en même temps fort soucieux. « Oh, que ne l'avons-nous pas su plus tôt ? Nous l'aurions pris à temps et nous aurions sauvé la pauvre Lucie. Enfin, à chose accomplie, point de remède, n'y pensons plus. Mais essayons d'atteindre notre but. » Il se tut, et ce silence dura jusqu'à ce que nous fussions arrivés. Avant de monter nous habiller pour le dîner, il dit à Madame Harker, « Mon ami John me dit, Madame Mina, que vous et votre mari aviez recopié et classé des documents qui concernent tout ce que nous savons de Dracula jusqu'à ce moment. Non, pas jusqu'à ce moment, professeur, précisa-t-elle, mais jusqu'à ce matin, oui. Quelle est la différence ? Toute la lumière possible a été jetée sur les événements, même sur ceux qui, d'apparence, étaient les moins importants. Nous nous sommes dit l'un à l'autre tout ce que nous savions, n'est-il pas vrai ? Madame Harker rougit et tirant une feuille de papier de sa poche. « Docteur Van Helsing, lui demanda-t-elle, voulez-vous bien lire ceci, me dire si je dois continuer ? Ce sont des notes que j'ai prises aujourd'hui. Il m'a également paru utile de consigner désormais tout ce qui se passe, jusqu'au moindre détail. Mais ici, il y a peu de choses qui ne soient pas personnelles. Dois-je continuer ?» Après avoir lu attentivement ce texte, le professeur lui rendit en disant « Ceci n'ira pas rejoindre les autres documents si vous ne le désirez pas. Pour ma part, cependant, j'y tiendrai beaucoup. » Votre mari ne vous en aimerait que davantage, et l'estime que nous tous, vos amis, avons pour vous n'en serait que plus grande, notre estime et aussi notre amitié. » En reprenant le papier, elle rougit à nouveau, mais elle eut en même temps un large sourire. Ainsi donc, et jusqu'à cette heure même, nos notes sont complètes et entièrement mises en ordre. Le professeur en emporta un exemplaire afin de l'étudier après le dîner, en attendant notre réunion fixée pour 8 heures. Comme chacun de nous a déjà lu le tout, une fois réunis dans mon bureau et au courant des moindres faits, nous serons à même d'élaborer notre plan de campagne contre notre terrible et mystérieux ennemi.